Mise en onde de l'exposition Le Voyage ou De ce que j'étais à ce que je serai. C'est le thème de notre émission de ce jour consacrée à Maria Berlioz qui a choisi de réaliser une exposition évoquant son parcours depuis son arrivée comme enfant d'immigrés italiens dans les années 60 jusqu'à aujourd'hui où elle est devenue totalement citoyenne française. Cette exposition, à la fois mémorielle, sociale, artistique et politique, mêle tous ces éléments qui forment le cheminement d'une vie en partant de l'enfance pauvre, celle de la misère des parents, qui les pousse à partir en quête d'un avenir présumé meilleur, et en passant par les difficultés de la vie en France au début de l'installation pendant des années, puis à la volonté de se forger une vie digne dans ce pays qu'on adopte, en alliant le travail, la pratique artistique et l'insertion sociale et politique par le militantisme. Je vous propose donc, au fil de cet entretien réalisé avec Maria Berlioz au cours de la visite de son exposition, d'aller à la rencontre de tous ces thèmes, avec à la fois des récits anecdotiques, mais ô combien significatifs, tant du vécu émotionnel que du contexte social du moment, et aussi des éléments d'information et des réflexions personnelles sur la vie actuelle que nous vivons tous. Merci à elle d'avoir bien voulu accepter cet entretien et bonne écoute.
Cette exposition, je l'ai prévue de la manière suivante. Je ne voulais pas parler spécialement immigration, c'est toujours un mot qui fait ou peur ou qui confond les choses. Donc pour moi, et tu vois la photo qui est là-bas, c'est une petite photo donc qui est tirée d'une photo de classe. C'était juste un mois et demi avant que je parte d'Italie. Et c'est vrai, pour moi, c'était la première fois que je quittais la ville et la première fois que j'avais ce voyage à faire, ce grand voyage.
Et donc, quel âge ?
J'avais 8 ans. Je suis née en 1955. Et là, tu vois, on est parti le 6 pour arriver le 7 en fin de journée, en 1963. Donc, j'avais un mois ou deux de plus que mes 8 ans. Et donc, pour moi, c'était le voyage. Hein, c'était... Voilà. Et
savais que tu reviendrais pas. Enfin, c'était pas un voyage pour quelques jours, quoi. C'était le départ.
C'était le départ, le départ. Mais par contre, comme je l'écris dans le texte, lorsque j'étais à l'école, l'institutrice sur le grand panneau qui était sur un grand mur, parce que j'étais dans une école la plus importante de la ville. C'était une ville d'à peu près 60 000 habitants. Et donc il y avait beaucoup d'élèves, et dans cette grande classe, au fond, la maîtresse montrait avec une canne qui était énorme pour moi à l'époque, elle montrait l'Europe et donc le bout de l'Italie, on voyait la France. Donc après, lorsque dans la famille on parlait de la France, mon Dieu, je ne savais quoi imaginer, hein. Tout était
donc
à découvrir.
San Severo,
okay. C'est dans les Pouilles, c'est sur cette langue de plaine qu'il y a le long de l'Adriatique. Hein, ça se trouve bien au sud de Rimini, puisque les gens ont plutôt l'habitude d'aller là-dessus, sur cette côte pour les vacances. Alors que moi, je suis au sud, je suis juste devant ce qu'on appelle le Bergamo, c'est une pointe là de l'Italie qui ressemble beaucoup à la Corse. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la montagne et la mer qui la baigne.
Donc l'Adriatique, et en face, c'est quoi ?
Alors, on a l'Albanie. On a l'Albanie, et puis les pays qu'on a maintenant, comme la Croatie ou autre, qui était l'ex-Yougoslavie. Et d'ailleurs, ma maman s'appelle, de nom de famille, albanaise. Donc, il y a sûrement eu...
Des échanges,
oui, très cordiaux pour qu'elle en porte le nom. Et j'ai remarqué, on verra tout à l'heure, Antonio Gramsci, j'ai fouillé un petit peu qui il était. Il a des antécédents, pourtant il est né en Sardaigne, mais il a des antécédents sardes. Ah. Alors le premier panneau est l'Italie. Alors celle-ci, elle a été dessinée. Et puis, ce qui était important pour moi, c'est de mettre San Severo, Lyon les Brotteaux, puisque la Part-Dieu n'existait pas. C'est donc là où le train arrivait de Turin. Et puis, toutes les étapes que je trouvais énormes. Il y en avait beaucoup avant d'arriver. Le premier trajet était le soir de San Severo jusqu'à Turin. On arrivait au petit matin, et puis là, on changeait de train, et puis c'était celui qui nous emmenait vers le haut de l'Italie, comme ça. Puis Modane, c'était la frontière, et puis on traversait les Alpes pour se diriger vers Saint-Jean-de-Maurienne ou Saint-Michel-de-Valois.
Et quel souvenir de tout ça, ce voyage? Quelles images dans ta tête?
Les images que j'ai, c'est que... on était, déjà dans le train, on était très secoués, moi qui avais une vie beaucoup plus calme, plus paisible là-bas. Je trouvais étonnant que à la gare, il y ait tant de monde qui nous accompagne pour un voyage. Je trouvais étonnant que tout le monde pleure. Je trouvais étonnant qu'il y ait des hommes qui avaient le mouchoir à la main. Je n'avais jamais vu ça, alors que là-bas, on n'avait même pas l'habitude. C'était encore l'époque très pudique, où on disait à peine les choses. Et on nous disait beaucoup, en italien, de nous écrire. Scrivete, ci. Ou alors, quel destin, ma che destino, ils disaient tous, de partir comme ça. Et donc, cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi. C'était entre... deux petits moments de sommeil, je voyais toujours ces lumières des gares qui arrivaient, les grands coups de frein du train. Et puis quand on est arrivé à Turin, alors c'était déjà triste, pourtant on était au mois d'août, mais il y avait cette brume qu'il n'y avait pas à San Severo. J'avais laissé un pays qui était lumineux, qui faisait mal aux yeux tellement que c'était lumineux, par le soleil. Et donc à Turin, ensuite, lorsqu'on s'est dirigé, la chance a voulu que ce soit un jour où il faisait très mauvais temps. Et lorsqu'on est arrivé près des Alpes, donc vers Oulx, Bardonec et puis Modane, je me rappellerai toujours de maman qui se signait sans arrêt, et elle prononçait ces mots, bien sûr, elle parlait le dialecte du sud, et elle disait à mon père, Sant'Antonio, sans... San Michele, Sant'Anne et je ne sais quoi. Elle implorait tous les saints du monde. Elle disait, mais où tu m'emmènes? Tu m'emmènes au bout du monde, là. C'est la fin du monde où tu m'emmènes. On n'avait jamais vu des montagnes, et encore moins aussi hautes.
Oui, c'est impressionnant.
Et noires par le mauvais temps.
Ouais.
Voilà.
Des angoisses ou le fait d'être avec tes parents, ça te rassurait
Le fait de voir mes parents qui n'étaient pas heureux, bien sûr, ça angoissait. Ce n'était pas du tout la sortie du dimanche où on avait envie de se promener, de sourire, de rire. Maman qui ne savait pas où elle allait, mon père qui n'avait personne ici. Ici, on allait être accueillis par le frère à maman, donc... Elle avait encore quelqu'un qui allait être là, mais mon père, personne.
Donc, il était à Lyon, lui, ce frère.
Il était à Lyon. Il était né en 1929. Il a dû se marier dans les années 50. Et il est arrivé à Lyon en 53. Et quand il venait en vacances en Italie, mon père était journalier. Journalier, ça veut dire on allait le soir sur la place de la ville. Il cherchait du travail. Un, deux, trois patrons étaient là. Et s'il était pris, parce qu'il y en avait un millier pour 50 personnes qui allaient être prises. Donc s'il trouvait du travail, bien, il y en avait pour quelques jours, soit un jour, soit rien du tout. Et ça veut dire que le lendemain, il n'y avait rien à manger.
Tutti mi dicon mare, ma, mare, ma. E a me mi pare una maremma amara. L'uccello che ci va perde la penna. Io c'ho perduto una persona cara. Sia maledetta maremma, maremma. Sia maledetta maremma. Sempre mi trema il cor quando ci vai, che ho paura che non torni mai.
Et dans tout ça, et parmi les gens qui me manquent énormément et qui m'ont donné aussi un petit peu le goût à aimer toutes ces choses en Italie, ce sont aussi mes oncles ou ma tante qui étaient des personnes qui n'avaient pas d'enfants et qui nous accueillaient beaucoup pendant qu'on avait des moments si difficiles. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsqu'on est parti d'Italie, mes parents avaient déjà 5 enfants.
Et vous êtes partis les 5.
On est partis les 5, je suis la grande, donc les autres étaient petits. Donc pendant ce trajet, il fallait aussi faire attention aux petits, dont la dernière qui avait 2 mois, puisqu'elle était née au mois de mai, et maman la laitait. Donc elle la laitait même dans le train. Oui.
Et arrivé à Lyon, vous aviez un logement qui vous attendait?
Alors, mon père était venu au mois de mai, et lorsqu'il faisait des recherches d'appartements, de logements, avec 5 enfants, il n'était pas question de louer quoi que ce soit, donc personne n'en voulait. Et on a fini par avoir une sous-location à Civrieux-d'Azergues. Donc c'était une dame qui louait déjà pour les vacances une vieille maison qui était au centre du village, près de l'église. Et donc elle nous l'a louée. Donc le premier jour, on est arrivé, on est resté 2 jours chez ma tante. Et puis ensuite, eh bien, on est parti en car, puisque personne n'avait de voiture, avec les cars planches qui existent encore. On est parti en car avec notre valise et on est arrivé là-bas. Et mon Dieu. Alors, le paysage était agréable parce que pour une fois, on voyait quelque chose de, qui était arboré, qui était fleuri. Parce que chez nous, dans le sud, c'était quand même très sec. C'était le sud. Mais donc là, c'était bien. Mais par contre, la maison, c'était dans un état. Donc, bon, mes parents ont dû refaire tout ça. Mais ce qui a été dur, c'était aussi la manière de s'installer là-bas. Mon père, par exemple, pour avoir un peu de chauffage, venait en bus depuis son travail avec deux sacs, un sac avec un peu de nourriture et l'autre sac avec du bois qu'il trouvait pour pouvoir chauffer à la maison.
Parce que non, Sivrieux d'ailleurs, c'est pas tout près de Lyon. Son travail, il était où? À Lyon.
Son travail était à Lyon. Il était employé chez, chez Maya Saunier. Oui.
C'est des travaux publics, ça?
Les travaux publics, oui. L'entreprise existe encore. Mmh. D'ailleurs, il a fait partie des gens qui avaient travaillé pour la construction de la tour Lapardieu. Mmh. Et mon père, lorsqu'il est arrivé, il a eu donc le travail chez Maya Saunier, le travail au noir, que l'on appelait au noir, mais qu'on pouvait faire les samedis et dimanches parce que y avait suffisamment de travail. Et plus un jardin. Il fallait avoir un jardin pour tout ce monde-là. Mais c'était une époque où on est arrivé, la France se reconstruisait, donc des maçons, il y en avait besoin. Mon père, qui n'était pas maçon, hein, donc il a dû apprendre ça en arrivant.
Il faisait quoi avant?
Eh bien, je disais tout à l'heure que c'est un lieu de production, donc il était dans les vignes, il travaillait le vignoble, là où les céréales.
Et il est devenu maçon italien en France.
Et oui.
Et
ce qui me paraissait, ce qui me touchait beaucoup les rares fois où je sortais avec lui, parce qu'on ne sortait pas beaucoup, il disait, tiens, regarde, ça c'est ce qu'on vient de faire avec un tel ou un tel. Donc, il y avait quelque part chez moi ce goût de construire quelque chose. Je trouvais que c'était superbe à partir de matériel et puis du savoir-faire surtout, de pouvoir aboutir à quelque chose. Je me demande d'ailleurs si dans la démarche d'apprendre les arts plastiques et créer, il n'y a pas quelque chose qui vient de là. Laisser une empreinte de ce que l'on peut faire. Je pense que ça doit beaucoup jouer. Ça a dû jouer, tout ça.
Donc après, l'école à Sivrieux d'Azergues
Sivrieux d'Azergues, mais pendant 2 ans. Alors, c'était une... j'ai eu de la chance, comme d'ailleurs mes petites sœurs, parce que c'était une école de campagne, hein, où on commence depuis le CP jusqu'au CM2. Et l'instituteur, qui lui avait plusieurs enfants déjà, donc il savait déjà comment ça se passait, mais ce qui était important, c'est qu'il a pu m'enseigner la langue, nous enseigner la langue, nous a pris en main très vite et presque individuellement, chose qui n'aurait pas pu se faire dans une classe, dans une grande ville, hein, où on est beaucoup plus nombreux, où on ne peut pas s'occuper toujours de chacun. Et c'était très bien comme ça. Et donc, quand on est arrivé, personne ne connaissait le français. On ne sortait pas d'une famille bourgeoise, comme parfois on a l'occasion de parler d'Elsa Triolet, qui, elle, connaissait déjà 2 langues, même 3, l'allemand, le français et le russe. Nous, il n'y avait que le dialecte de là-bas et puis l'italien de l'école que j'avais appris à lire et écrire. Bon. Donc j'avais des pages et des tableaux pleins d'écritures où quand même les mots venaient petit à petit pour pouvoir les...
Et puis les enfants assimilent vite. Quoi.
Et on assimile vite parce que les premiers jours, on était des autistes. On ne comprenait pas ce qui se passait au dehors et on ne pouvait pas communiquer. Donc c'était vraiment dur. Et heureusement que les enfants en prennent vite puisque... moi, j'étais donc l'aînée à la maison. J'ai été très vite embarquée dans les papiers administratifs. Je me rappelle, alors après Civrieux-d'Azergues, il a fallu que j'aille au collège parce que je n'ai pas redoublé. Donc, collège, et ça s'est passé à Villeurbanne. On habitait Cusset. Et puis, j'allais au collège qui était cours de la République, hein, ce cours qui est perpendiculaire aux Zola. Eh bien, il a fallu, donc quand il y avait des papiers à faire, la sécurité sociale ou autre, je me rappelle, le comptoir était suffisamment grand, j'étais sur le point des pieds pour donner mes papiers, et cette dame qui se penchait pour me demander ce que je voulais, parce que ça devait être rare quand même quand des gamins amenaient des papiers à faire. Voilà.
Parti di notte torna vinturi d'inverno all'acqua e di stati al lupo Callu ventus a fatica, lo so ciavaggio in grassa lì, paciuna di tanti gregni unci resta. Li so picciotti chianci di una.
Alors, cette exposition, je n'ai pas voulu la faire avec que des souvenirs. Parce que, parce qu'ils nous appartiennent, parce que, bon, est-ce que ça dira à quelqu'un de montrer un tel coin ou un tel autre? Bon. Ce qui m'a paru intéressant, c'était déjà une phrase qu'avait trouvée Jean Knopf pour la carte d'invitation. Bon, il y avait la photo, bien sûr, qui allait être là, mais... Une phrase s'imposait pour étoffer, et il m'a trouvé une phrase d'un poète italien qui disait « quello che era, quello che sarò », c'est-à-dire de ce que j'étais à ce que je serai. Et je trouve que c'est bon comme démarche, c'est-à-dire on prend un point de départ comme le voyage, et puis on va vers quelque chose. Et donc, bon... Tout ce qu'il a fallu que je mette dans cette exposition est parti dans ce sens-là. Alors, ce deuxième mur, on va dire, ce sont des présentations, des plaques, des noms de rues où j'ai habité. Alors, c'est à la fois les noms de rues, des lieux, par exemple, là, c'est la dernière rue où j'ai habité, Via Merlino Pignatelli. Là, c'est une tante qui habitait Cimabue. J'ai une tante via Corata, une autre via Monte Sant'Angelo, je ne la vois pas. J'avais ma grand-mère qui habitait Corso Antonio Gramsci. J'avais une autre grand-mère qui habitait via Emanuele Dedeo. Et donc, d'ailleurs, maman, quand elle est venue voir l'exposition l'autre jour, elle me dit, mais je suis née dans cette rue. Donc, c'est là-bas, via Emanuele Dedeo. Donc, il m'a semblé qu'il était important pour ceux qui venaient voir l'exposition, d'abord voir un petit peu les personnages qui faisaient cette ville, qu'on a choisie pour donner les noms de rue. Et puis pour ceux, parce que Pierre Vénit, il ne faut pas l'oublier, il y avait des quartiers entiers de personnes qui venaient de San Severo. Il y en a d'autres qui sont venus de la région de Rome. Mais de San Severo, il y a quand même une bonne communauté. Et d'ailleurs, dans la rue de la République de Pierre Bénit, le dimanche matin, si on se promène après le marché, ça sent les poivrons à la tomate et la sauce tomate du dimanche. Ça sent très bon. Et pour ceux qui, après, ont eu un peu plus de moyens parce qu'ils ont un peu plus réussi dans la vie, il y a le quartier des Cerisiers, qui est en haut de Pierre Bénit, où ils ont construit leur propre maison. Donc on voit des petites maisons côte à côte, comme au pays, parce qu'ils ont quand même la culture qui a été, à ce moment-là, la trentaine d'années, qui était encore la leur. Aujourd'hui, bien sûr, que ce soit les enfants ou petits-enfants, vivent comme tout le monde. Mais ceux qui étaient venus les premiers, lorsqu'ils ont construit, avaient encore leur intérieur avec carrelage ou autre, qui ressemblait aux maisons de chez eux.
Donc sur ce mur, 50 plaques, hein, si
50.
Vous avez bien
compté. Oui, oui, oui.
C'est pas
50.
Des plaques que tu as été volées à San Severo pour non. Les amener là.
Non, j'ai travaillé les fonds. Mm-hmm. J'ai travaillé les fonds pour qu'il y ait cette chaux qui était souvent sur les murs. Donc ça donnait un peu ces couleurs-là. J'ai trouvé une typo qui donnait un peu l'empreinte, parce que là-bas, ils doivent travailler avec pochoir pour les noms de rue, parce que le résultat est sensible à celui-là. Il lui ressemble vraiment. Et du coup, le tout a été imprimé sur toile. Ce qui veut dire que ce sont des objets que l'on peut garder, mais voilà.
C'est alors aussi... ces plaques, c'est vrai que de loin, on a l'impression que c'est des plaques en marbre avec peut-être même gravées. Hein, c'est l'impression. De près, bien sûr, on voit que c'est un travail d'artiste pour les faire semblant, mais c'est assez intéressant.
Mais le marbre, il faut y penser aussi au marbre, parce qu'il y en a beaucoup en Italie, et San Severo, on est face à Naples, et pas loin, il y a pas mal de carrières. Les édifices municipaux ou nationaux étaient en marbre. Mon école était en marbre. La sécurité sociale, là-bas, était en marbre. Les intérieurs des églises, il y a beaucoup...
C'était pas un matériau de luxe, quoi. C'était un matériau
non,
courant.
Non, non.
Si macchia di rusigia vita mia si sposa i gersu minugia russa cu passa passa sin chiama di tia e n'hai una gran pena di lurusa tola chi tola senza la vela la barca non va. La notte un dormi e sempre penso a tia. Tu dormi a riposa nu graziosa. Passami l'anni e non mi scordo a tia, ti voglio cara amante fida sposa.
Oui, donc un, deux, trois, quatre, cinquième panneau, donc des œuvres artistiques, c'est quoi, des sérigraphies, des dessins?
Ce sont des linogravures. Donc les linogravures, c'est comme toute gravure. Celle-ci, de gravure se rapprocherait plus de la gravure sur bois, c'est-à-dire, d'ailleurs Picasso en avait fait beaucoup, c'est-à-dire je n'utilise pas les acides ou autres pour pouvoir graver, mais il faut faire son dessin sur une plaque de lino qui habituellement d'ailleurs sont en petit format, et je ne suis pas loin de la sculpture en faisant ça, parce que du moment que je ne fais pas des natures mortes, là, ce sont des personnages, et finalement, ils sont créés quand ils sont sculptés sur le lino. Le lino, c'est creuser et enlever ce qui va rester blanc et laisser en relief ce qui va être ancré, ce qui fait un peu la démarche comme le tampon, en fait. Voilà. Et quand le dessin me paraît suffisamment juste par rapport à ce que j'ai initialement préparé, eh bien là, on peut passer de l'encre spéciale pour la linogravure. on passe la feuille dessus et on presse les deux. Et quand on écarte les deux, ben, on a la linogravure. Et puis alors ici, volontairement, il y a cette colonne qui sépare un petit peu de l'autre travail. Dans ce que je fais, c'est à la fois du travail d'art plastique, mais surtout j'ai besoin, et il faut le faire en tant qu'artiste, c'est peindre un peu la période que l'on vit. Alors, il est vrai qu'il y a les journaux, il y a des choses qui sont filmées, il y a des reportages, mais en art plastique, je trouve qu'une trace peut rester quand même... C'est important et elle est visible, on n'est pas obligé d'aller dans les archives après pour aller voir ce qui se passe. Donc là, on a à la fois le tag qui est en fond, qui est une culture tout à fait de maintenant, qui continue, qui touche essentiellement la jeunesse. Et j'ai voulu rapprocher ce savoir-faire qui est le mien, qui est antécédent. Hein. Et nous vivons la même période.
Et si on revient sur ta démarche, comment t'en es arrivé à faire tout ça? Je veux dire, t'as sorti de l'école primaire, t'as commencé à dessiner ou c'est venu plus tard?
Alors, lorsque je suis sortie de l'école primaire et lorsque j'étais adolescente, j'étais l'aînée de 8 enfants.
Donc, vous étiez devenus 8.
Ah oui. Maman, mes parents, on est arrivé avec mes parents, on était 5. Et ensuite, maman a eu 3 autres enfants, donc pas de pilule à l'époque, croyant du Sud, donc Dieu envoie les enfants. Donc nous étions 8. Et donc j'étais l'aînée, il n'était pas question de dessiner, premièrement. Il n'était pas question de lire. Parce qu'avoir un livre dans les mains, c'était perdre son temps, et il y avait du boulot à la maison. Et à 16 ans et demi, j'ai commencé à travailler, parce qu'on avait un salaire pour 10. Donc on a beau dire qu'il y avait des allocations familiales, mais ça ne va pas chercher bien loin quand il faut acheter plusieurs flûtes de pain par jour, hein, et 10 paires de chaussures, et ainsi de suite. Donc 16 ans et demi, j'ai commencé à travailler, et jusqu'à la vingtaine, d'ailleurs c'est la période où j'avais commencé à faire une dépression, c'est que ben, je n'existais pas. Il fallait que je sois là pour un tas de choses, mais sauf pour moi-même. Et puis, c'était à ce moment-là, c'est une période charnière où je me suis dit déjà, ce que j'avais qui était difficile à résoudre, c'est que je n'existais pas pour moi-même. Et puis, j'étais entre deux. J'étais entre ce pays que j'aimais, qui était une passion. Ici, on vivait juste pour travailler, donc il n'y avait rien comme attrait. Là, j'étais mal. Bon, au pays, on n'allait pas rentrer. J'étais mineure, il n'était pas question de faire quoi que ce soit. Donc, je me suis dit, c'est en France. Et c'est à partir de là qu'il a fallu se remettre en route autrement. Et là, j'avais commencé à fréquenter des personnes qui ont été... qui m'ont entourée, avec lesquels j'ai pu parler autre chose que ces problèmes financiers quotidiens. J'ai rencontré aussi la personne avec qui je me suis mariée et qui a été, bien sûr, comme à cet âge-là, de grands, grands, grands moments. Et à partir de là, j'ai commencé à connaître la France telle qu'elle se présentait et le fait d'habiter après chez moi. J'ai pu au moins me connaître.
Tu as épousé un immigré italien, un fils d'immigré italien ou un...
Pas du tout. Un Français qui est né à Lyon et qui a vécu dans la Haute-Loire. Donc, rien à voir avec les Italiens. Et c'est comme ça que j'ai épousé en même temps la France. Ouais. Ça a été très important, ce moment-là. Et donc, une fois que j'étais chez moi, à ce moment-là, j'ai pu petit à petit à me connaître, petit à petit à ouvrir des livres, petit à petit à faire ce que je pouvais faire en dehors du temps de travail. Alors, à cette époque-là, je me suis rendu compte qu'un travail qui finissait le soir tard et commençait le matin tôt, je ne pouvais pas faire comme ça jusqu'à la retraite. Je me suis dit, il faut faire autre chose à côté. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivé le dessin. D'ailleurs, je ne me rendais pas compte que j'aimais autant parce que je n'avais pas eu l'opportunité de dessiner, mais j'ai toujours eu une très grande ferveur pour, lorsque j'allais dans des églises en Italie, voir ces sculptures, ces peintures, voir ces monuments. Je restais toujours ébahie depuis que j'étais enfant. Et lorsque petit à petit j'ai pu dessiner, j'ai pu aller un peu plus loin dans le savoir-faire, eh bien je me suis rendu compte qu'on pouvait le faire, mais c'était magique, c'était magnifique. Et au fur et à mesure que je vivais des choses, et notamment aussi celle de citoyenne, parce que très tôt, à 18 ans, j'étais déjà déléguée du personnel, là où je travaillais, du CE, du CCE, et puis ensuite, donc, mes mandats d'élu, ont fait que j'ai toujours eu, parallèlement, ce souci de création et le souci du contexte dans lequel je vivais, ce souci économique et social. Et en matière de création, ce qui m'a paru le très important, cette linogravure. Alors j'ai essayé beaucoup de techniques. J'ai essayé l'aérosol, j'ai essayé la peinture à l'huile, j'ai essayé le fusain, l'encre, comme tout le monde. Mais je trouve que dans linogravure, il y a le mot gravure, et quand on grave, c'est quelque chose qui doit rester. Et je tiens beaucoup à ça. Alors j'ai fait aussi beaucoup de collages. Mais le collage, c'est dans l'air du temps, c'est-à-dire suivant ce que l'on fait, ou si, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut coller plusieurs idées, on peut rapprocher certaines autres. Donc, c'est une importance pour moi aussi, mais la gravure est quand même la première importance.
Et tout ça en autodidacte ou conservatoire?
Alors, non.
Ou quoi, non,
j'ai eu une dizaine d'années d'atelier, voilà, et donc j'ai appris toutes ces techniques. J'avais quand même un professeur qui voyait où j'en étais. Et puis j'ai eu toute ma vie, quand même plus de 20 ans, où j'ai travaillé dans l'affiche.
Un travail professionnel.
Professionnel, oui, professionnel. Donc l'un dans l'autre, ça permet tout de même d'avancer au niveau du savoir-faire, tout simplement.
Et ton mandat, tes mandats politiques à Pierre Bénite, ça a commencé quand?
Ils ont commencé en 1989.
T'es venu habiter là?
Oui, j'habitais depuis 1970.
Ah oui.
Voilà. Et donc je devais avoir 33 ans, et j'attendais un bébé. Et donc, avec le groupe de personnes qui m'étaient proches, donc il fallait sortir une liste pour la campagne électorale, donc j'étais tout à fait en dernier puisque j'allais accoucher peu de temps après, et il a fallu que le résultat soit suffisamment bon pour que je sois élue. Alors ce qui est, par contre, il y a une chose qui s'est passée, c'était un événement quand même important. Mon père sortait de la mairie de Pierre Bénite parce qu'il regardait les résultats. Je sortais de la maison du peuple de Pierre Bénite et je venais de savoir que j'étais élue. Et lorsque j'ai rencontré mon père, j'ai dit « je suis élue ». Et moi qui n'ai jamais vu mon père s'émouvoir comme ça, de grandes larmes ont coulé. Et en fait, j'ai appris à ce moment-là, seulement à ce moment-là, qu'il était au Parti communiste en Italie, et j'avais vécu dans une ville communiste. Et j'ai un souvenir de cette époque où une grande dame venait, qui avait une bonne cinquantaine d'années, une grande dame venait à la maison et demandait à mon père « tu prendras ton timbre ». Et à l'époque, moi qui n'écrivais pas, mes parents n'avaient pas besoin d'écrire, je ne voyais pas d'où sortait ce timbre. Et là, je l'ai su. Je l'ai su à ce moment-là.
Donc une transmission inconsciente de la fibre communiste, alors.
Eh oui.
Du père à la fille.
Eh oui. Au fond, on ne se connaissait pas beaucoup parce que c'est comme ça, on ne discutait pas beaucoup. Voilà. Mais il a fallu des événements pour me rendre compte de certaines
choses. C'est pas lui qui t'a poussé
à... Oh non, pas du tout. Non, pas du tout. Donc du coup, là, il a fallu des événements comme ça pour me rendre compte que je pensais un peu comme lui, ou que je lui ressemblais, tout bon.
come mi vedete, devo chieder la carità. Ho quattro figli, piangono del pane, non ho da dar. Ho quattro figli, piangono del pane, non ho da dar.
Et tu t'es marié à quel âge? Donc à ce moment-là, tu as rompu avec la famille, enfin quitté la famille, tu t'es plus occupé des frères et sœurs.
Alors, il y a toujours quand même, je ne pouvais pas partir du jour au lendemain en disant ciao, voilà. J'étais l'aînée, donc il restait encore tout le monde à la maison. Non, j'avais un travail qui n'était pas loin de la maison de mes parents. J'y passais tous les jours. Non, on ne peut pas rompre comme ça. Avec la famille, on ne peut pas rompre comme ça, parce que c'était depuis ma naissance, donc on ne peut pas. Et il y a une autre chose aussi que je voudrais ajouter, c'est lorsqu'on a immigré une fois, eh bien, je me rends compte, la famille ensuite, eh bien, elle est parsemée un peu autour de Lyon, mais pas plus loin. Mm-hmm. On reste assez...
On n'immigre pas plusieurs fois.
Non, non, je ne crois pas.
Peut-être pas tout
le monde. Moins par goût. Si on a envie d'être dans un autre pays par goût, oui. Mais sinon, on ne cherche pas à trop s'éloigner. Bon, c'est vrai que c'est une famille méditerranéenne.
Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la suite de ton parcours politique? Bon, il s'est un petit peu arrêté récemment avec le changement de
C'était terrible. C'était terrible. Je crois que cette période de... moi, je maintiens. Franchement, je maintiens depuis des années. Tant qu'il manquera du travail, tant que un homme, je parle au sens homme-femme, ou jeune, tant qu'on n'a pas ce souci d'avoir un travail pour pouvoir avoir un projet, ça déstabilise tout, absolument tout. Il est beaucoup plus sain que l'on imagine ce que l'on peut faire plutôt que de vivre ce que l'on vit actuellement. Et je pense que aussi bien au niveau d'une commune, d'un département ou d'un pays, c'est exactement la même chose. Vous savez, dans une famille, lorsque vous avez quelqu'un qui ne travaille pas depuis longtemps, qu'est-ce qui se passe ? Au début, on le plaint, et puis ensuite, on se dit, il ne veut pas travailler, puis ensuite, on se dit, mais oui, mais c'est à cause de lui qu'on a des problèmes, et ainsi de suite. Et je crois que l'on vit ceci en ce moment et depuis des années. Mon grand regret, c'est que ça dure depuis près d'une trentaine d'années. Je pensais qu'au fil du temps, les choses allaient se régler. On a un G20 qui se rencontre régulièrement, rien n'est fait. Je trouve que ce problème de chômage, c'est le plus crucial. On n'a qu'à voir la Grèce, on a failli vendre le pays. Non, mais on va où comme ça? Jamais, je crois, que dans l'histoire humaine, on a entendu des choses pareilles. Jamais. Eh bien, dans une commune comme la nôtre, c'est simple, la personne qui a été élue, qui est à droite, a été étonnée parce qu'il ne s'y attendait pas, parce qu'on a l'habitude de dire que dans des communes, où, surtout ouvrières, c'est à gauche. Eh bien non, les personnes qui ont attendu 30 ans à gauche et le travail ne revient pas, on peut pas faire. Les élus de gauche ne peuvent pas faire plus. Ne peuvent pas faire plus. Et donc, ils essayent n'importe quoi.
C'est pas de bon augure, tout ça.
Non, je suis assez pessimiste. Je suis assez pessimiste parce que les choses sont claires et elles durent depuis trop longtemps. Il y a cet espoir de Grèce, voir un petit peu ce que ça va donner en ayant une autre idée de l'économie pour faire tourner un pays ou l'Europe. Mais depuis longtemps, 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 je me dis pourquoi est-ce qu'on ne prend pas d'autres décisions pour faire tourner ce monde. Mais non, on ne veut pas. Je crois que ce qui reste toujours depuis des décennies, voire plus, c'est ou un patronat ou d'autres entreprises qui s'en vont d'ailleurs ailleurs pour payer les gens avec un bol de riz, et ça leur rapporte beaucoup. Sachez qu'un jean qui est là-bas à 8 euros, on les vend ici plus de 100 euros dans les magasins Lévis et compagnie, pour ne pas les nommer. Vous n'avez qu'à voir ce qu'ils ont à gagner dessus. Donc tant qu'on tourne dans ce sens-là, on ne peut pas être équitable avec tout le monde et on ne peut pas ramener du travail dans tous les pays. Et je crois que dans ce qu'on appelle la crise, l'Europe de l'Ouest a été drôlement sonnée avec ça. A été drôlement sonnée parce que les grandes entreprises, je ne parle pas du boulanger d'à côté, je parle des grandes entreprises, ont eu les mains libres avec la mondialisation d'aller en Asie, et après ils iront sûrement en Afrique. Alors qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas.
Povere filandere che n'avrì mai ben, dorme in la paia creperinte il fe, dorme in la paia creperinte il fe. Povere filandere che n'avrì mai ben, sono la campanella che andere i pical coin del mur, povere filandere i pical coin del mur, suona campanella che ne giorne scur, povere filandere che n'avrì mai ben, dorme in la paia creperì.
Oui, c'était un de mes complexes lorsque j'étais enfant, l'écriture. Quand on a de très mauvaises notes en rédaction, parce que chez moi c'était le dialecte de Sansevero et puis à l'école c'était autrement, évidemment les tournures de phrases n'étaient pas à la française. Et puis il a fallu que j'écrive les premiers discours pour... la période où, pour accueillir les artistes lorsque j'étais élue à la culture. Donc là, j'ai fait un effort monumental. Et puis, il a fallu que j'écrive à plusieurs reprises pour des textes pour mes expositions. Et puis, j'ai pris goût, de toute façon, à l'écriture. Donc, l'un dans l'autre, je trouve que le mot n'est pas figé par rapport au dessin. Un dessin reste quand même quelque chose qui a une empreinte. Et c'est là. Alors que les mots valsent, les mots vivent, c'est beaucoup plus vivant. Et je trouve qu'on peut beaucoup plus s'imaginer dans la lecture. Et du coup, il faut écrire pour qu'on ait cette imagination.
Alors, tu es tenté par quoi? Des romans, des nouvelles, des fictions?
Les nouvelles. Oui, je crois que je ne serais pas bonne pour les romans. Parce que je ne sais pas bien jouer, donc je ne sais pas trop imaginer. Mais par contre, les nouvelles, si, c'est important. Donc, plutôt la nouvelle.
Apparaître? Ou déjà écrite?
Non, pas encore écrite,
ces nouvelles. Et pourtant, ce texte, présenté sur des panneaux dans l'exposition, est redécoupé quelque peu par mon soin pour ce montage sonore, et peut-être comme une amorce de ce projet d'écriture. Je vous laisse écouter, en guise de conclusion à notre émission, ces extraits de panneaux de son exposition que Maria Berlioz a écrit et a bien voulu dire pour nous. Auparavant, je vous indique que, au fil de cette émission, vous avez pu entendre diverses illustrations musicales. Il s'agissait de chants italiens autour de thématiques diverses, émigration, travail, politique. Ils étaient interprétés tantôt par la chorale Italia de Sarreguemines, tantôt par une chorale créée à l'occasion du 7e Festival des Deux Mondes de Spoleto. Et je redonne la parole à Maria Berlioz pour cette lecture. Maria, que je remercie encore pour cet entretien réalisé à partir de son exposition sur le thème de ce que j'étais à ce que je serai.
Une pluie dense s'abattait sur la ville. Le ciel était noir. Seuls les phares des voitures éclairaient cet après-midi d'été. Les édifices, les monuments noirs barraient l'horizon. Mon père, un billet à la main, montrait l'adresse de notre destination. 13 rue Moncey. J'étais au fond du tube, avec mon frère et mes sœurs, dans le noir. Les valises butaient nos petites jambes. Où allions-nous ? Ma tante a ouvert sa porte. Ses grands yeux nous rassuraient. Son délicieux sourire nous réconfortait. Son accueil nous suscitait la réussite. Mes parents devaient tenter l'aventure. Dans ce tout petit appartement, 4 adultes et 8 enfants se serraient autour de la table. Un bien-être inondait la pièce. Enfin, de la chaleur sur cette nouvelle terre promise. Ce fut de courte durée. Nous devions habiter dans la zergue. La première calamité arriva très vite et nous étions catalogués. Nous ne pouvions pas communiquer. Des sons s'entrechoquaient au dehors. Que signifiait-il ? Je me fiais aux expressions des visages qui m'entouraient, mais cela ne suffisait pas pour comprendre ce qu'ils disaient. Monsieur Roche, l'instituteur de ma nouvelle école, affronta le problème de la langue. Comme dans un jeu, il gesticulait, il mimait. J'articulais, encore et encore. La prononciation n'était pas facile. Je tentais de déchiffrer, de prononcer. Plus tard, dans une école à Villeurbanne, dit, tu parles bizarrement, tu as un accent. Non, vos phrases ne sont pas françaises. 3 sur 20, en rouge, dans la marge. Je m'en lisais dans les complexes, dans les complications de la langue. Épelez votre prénom. Intimidée, je balbutiais. Maria, Léo, plus fort. Comment ? Honte, j'étais humiliée. Tous les élèves, et ils étaient nombreux, me dévisageaient. Noire était l'amertume que je ressentais. Je masquais mes blessures. Il fallait progresser. Mes parents avaient de beaux enfants. 5 venus d'Italie et 3 nés en France. Ma mère appréciait l'amélioration financière. Mon père ne travaillait plus à la journée. Mais pour subsister, ils perdaient leur terre natale, leur famille, leurs amis. Que refoulait mon père ? Il se comprenait à cette nouvelle vie, mais l'alcoolisme le guettait. Une période noire s'annonçait. La passion pour l'Italie me tenaillait, me dévastait, m'épuisait. Je n'arrivais pas à exister en France. Mais peut-on demeurer dans un pays et y être complètement étrangère ? Non. La décision fut prise. J'allais m'implanter à Lyon. Et c'est là que ma vie allait se dérouler. Espoir. Brutalement, la lutte se terminait. Je perdais mon enfance, mon adolescence. Effondré, je sombrais dans le noir. Quelque chose allait bouleverser, chambouler mon existence. Je découvrais, je goûtais, j'explorais, j'osais, je me grisais de l'amour. L'amour me relevait, me faisait renaître. L'amour fermait momentanément une période d'interrogation. Voilà d'autres gens que je ne distinguais pas. Je fraternise avec des camarades syndicalistes, des camarades politiques, des artistes. Dans ma rue, dans ma ville, dans ma région, l'Hexagone m'offre des hommes et des femmes qui me fascinent. Certains rebelles, indignés, d'autres provocateurs. Leurs interrogations étaient aussi les miennes. Nos idées fusionnaient. J'étais déterminée à prendre place à leur côté. Avec eux, j'ai pu me positionner dans la situation économique, politique et culturelle. Les Français, les Italiens, Pour moi, tous les peuples avaient les mêmes besoins, le savoir, la justice. À travers eux, j'ai grandi. Et tant pis si j'avais débaptisé ma nationalité. Dialoguer avec l'autre, échanger avec l'autre, partager avec l'autre, comprendre l'autre, est un acte quotidien. Nous avons besoin d'un langage. Par le biais culturel, nous pourrions trouver l'outil, inciter, initier, émanciper les citoyens dès leur jeune âge, pour les propulser vers l'expression. Me paraissait important, urgent. Le théâtre, la musique, les arts plastiques, l'écriture pouvaient leur servir de support. L'opportunité s'est présentée. Il fallait entreprendre un vaste chantier. Pour le concrétiser, j'étais résolue à m'investir, à contribuer à la vie de la cité. Je me suis engagée auprès d'hommes et de femmes élus de la République. L'écharpe tricolore que j'arborais était la reconnaissance officielle. Le temps d'un voyage et ma vie a basculé. Chacun a sa singularité et doit trouver sa voie. La mienne, je l'ai tracée comme tant d'autres dans un pays où j'ai pu me fixer. Je n'ai jamais été libérée du manque du pays. Il perdure, un être aimé disparaît là-bas. Je n'ai pas eu le temps de saluer son importance à mes yeux. La mélancolie m'envahit. Est-ce qu'elle transparaît ? Peu importe. L'immigration m'a éloignée de mes racines. Le temps qui aurait pu être vécu autrement a-t-il été volé ? Ai-je rompu avec ma passion ? Non. J'essaie seulement de traverser le présent sans trop trébucher.
Thank you. Thank you.